L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec Mille et Une Vie Habitat, Omélior, BT Immo et Castignac sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous. Voilà, il est quasiment 12h. Nous sommes en direct sur cette édition 2023 de l'Association des maires d'Île-de-France. Et nous aimons les élus locaux ici sur le plateau de Radio Immo et de Radio Territoria. Et on va parler d'un sujet. Une table ronde, un débat extrêmement intéressant pour le maintien des personnes seniors à domicile, bien évidemment, mais plus largement, la façon dont on tient compte, effectivement, à la fois de l'âge dans notre société, comment on gère cet aspect à la fois démographique, à la fois sociétal, à la fois culturel, mais aussi un cadre de vie, une trajectoire dans un pays qui a à cœur, qui devrait avoir à cœur, justement, de pouvoir l'accompagner. Pour discuter de ces sujets, on le sait d'ailleurs que le logement reste d'ailleurs le premier marqueur social de l'habitant. Géographiquement, c'est une identité qui reflète, qui va même bien au-delà de la façon d'habiter. On va en parler tout à l'heure et on va parler justement de ces fameux seniors dont on parle beaucoup en ce moment et notamment du vieillissement dans les copropriétés. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Stéphane Boubenet qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous.
Stéphane, vous êtes directeur Île-de-France pour Mille et Une Vie Habitat avec qui d'ailleurs nous avons construit cette table ronde. Je suis accompagné aussi, vous êtes accompagné de Titouan Levard. Bonjour Titouan.
Bonjour.
Comment ça va ?
Ça va.
Titouan, directeur général adjoint de Silver Valley. Alors Silver Valley, on va le traduire quand même.
Hein ? Silver Valley, en trois mots, c'est une association qui a pour but d'accélérer la mise à disposition et le passage des ciels d'innovation à destination des seniors et de leurs aidants. Voilà.
Ah, ça, c'est plutôt bien résumé, bravo. On va bien sûr développer, tout est dit. J'ai le plaisir d'accueillir, je l'avais rencontrée il y a quelques années, elle était d'ailleurs gestionnaire animatrice à Lieu-Saint, je me rappellerai toujours. C'est Johanna Tomasini. Comment ça va, Johanna ?
Bonjour, ça va, merci.
Vous êtes superbe.
Voilà. Merci.
Et vous êtes maintenant, d'ailleurs, vous avez pas mal évolué, puisque maintenant, vous êtes coordinatrice de la gestion animation chez Réciprocité, sur toute la région Nord-Île-de-France. Voilà, vaste programme. Toujours au taquet, bien évidemment. Et vous avez lancé cette initiative que j'appelle « Chers voisins ». Attention, c'est pas la cité télé là sur M6. Hein. Nos chers voisins, non, c'est chers voisins dans la région justement. Merci en tout cas d'être avec nous, justement pour parler de ce sujet qui est un sujet extrêmement vaste. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, on aime beaucoup les élus locaux. Parce que je peux vous dire que pour être un élu local aujourd'hui, un adjoint au maire, il faut vraiment avoir un sacerdoce. C'est seulement qu'on puisse dire. Elle est élue en charge du logement et de l'intergénérationnel, qui est bien le sujet qui nous occupe aujourd'hui, adjoint à la mairie de Cergy. C'est Josiane Carpentier. Bonjour Josiane.
Bonjour.
Je suis ravi d'être avec vous.
Je suis enchantée, merci de me recevoir.
Alors je vous en prie, puisque justement je disais en préambule, lorsqu'on a préparé un peu l'émission hors antenne, qu'il y avait à peu près l'équivalent de 600 000 élus locaux tous les jours dans notre pays qui travaillent quasiment sans aucune indemnité. Je précise, sans aucune indemnité. Et la machine France, elle tourne aujourd'hui dans la ruralité, dans les petites villes, les petits villages, grâce aux élus locaux comme vous, Josiane. Et il serait temps qu'on s'en rende compte. Merci d'être avec nous. En tout cas, un grand merci également à notre ami Clément Jocteur-Montrosier, directeur de la communication et de la RSE de Mille et Une Vie Habitat, d'avoir permis ce débat. Merci en tout cas. Alors, on va essayer de lancer le débat autour de cette thématique de l'habitat intergénérationnel, mais aussi du vieillissement dans les copropriétés. Je vais faire mon petit pitch, rapidement. Depuis plusieurs années, levant l'état de crise dans lequel se trouve aujourd'hui le secteur du logement en France, certains évoquent une bombe sociale, carrément, une bombe sociale. Certains disent elle va péter, peut-être qu'elle a déjà pété, mais on ne le voit pas vraiment encore. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que le climat est de plus en plus tendu. Pour autant, beaucoup d'acteurs aujourd'hui s'emploient au quotidien à répondre aux besoins de tous les habitants, de tous les publics, étudiants parfois au bord de la rupture, un public intergénérationnel, de personnes démunies, personnes handicapées, les seniors. Le groupe Mille et Une Vie Habitat a eu à cœur de répondre à ces besoins à travers des solutions innovantes et des choses que l'on va travailler. D'ailleurs, grâce à vous, on va pouvoir mettre l'accent, et c'est ça qui est important sur cette problématique dont on ne parle pas assez, avec justement un focus sur les seniors. Juste un petit rappel. La France compte aujourd'hui, et vous me rectifiez si je me trompe, 18 millions de personnes de plus de 60 ans. C'est énorme. 18 millions de personnes. En 2050, elles seront 22 millions. 22 millions. Alors comment on va mobiliser efficacement les acteurs publics, privés, associatifs, pour créer des partenariats en faveur du mieux vivre des seniors dans le logement? Quand je m'entends poser cette question, je me crois à peine, parce que je me dis, on est à se dire comment on optimise, alors que ça devrait être normal dans un pays normal, mais on va quand même se poser cette idée. Quelles solutions on peut mettre en place, des solutions innovantes, on peut développer pour accompagner les seniors et favoriser leur maintien à domicile. Et quand je vois des jeunes qui s'occupent de ça, moi, ça me rassure énormément, bien évidemment. Et favoriser, bien sûr, je le disais tout à l'heure, l'inclusion sociale de ces personnes dans les générations. Autant de questions que nous allons poser à nos amis. C'est parti pour le débat.
L'AMIF 2023 sur Radio Imo et Radio Territoria.
Alors, Stéphane Titouan, et la parole circule librement. J'aimerais commencer, si vous voulez bien, par un petit rappel. La durée de vie en maison de retraite, inférieure à 2 ans. Ah la vache, là. C'est inférieure à 2 ans. Tout est dit, l'enjeu pour les seniors consiste au maximum à rester chez elles en bonne santé. C'est un enjeu social, c'est un enjeu sociétal, économique, c'est un enjeu de survie tout court. Stéphane.
Vous avez résumé la situation. 2 ans en maison de retraite, ça signifie qu'il faut tout faire, chacun à notre niveau, pour que les personnes âgées puissent mieux vivre et le plus longtemps possible au sein de leur habitat. Et chez Milieu de Vie Habitat, on en est pleinement conscient. C'est pour ça qu'on a voulu créer Sensilla. Sensilla, c'est une impulsion qui compte sur le partenariat pour la conception et le déploiement de solutions qui reposent justement sur ce mieux vivre ensemble pour les seniors, afin qu'ils puissent rester un maximum de temps dans leur logement. Et c'est un point qui est particulièrement important.
On va revenir sur cette formidable initiative, parce que ça, c'est quelque chose qui est absolument remarquable. Titouan, sur ce que je viens d'introduire, c'est tragique hein, quand on voit ce chiffre-là. Hein. La durée de vie en maison de retraite est inférieure à 2 ans.
Oui, tout à fait. C'est flippant, quand on arrive, alors on dit plutôt maintenant EHPAD, vu que c'est comme ça qu'on l'appelle dans l'institution, mais en effet, c'est important comme nomenclature. Mais quand on arrive dans ces établissements, en institution, aujourd'hui, on est vraiment dans ce qu'on appelle des GIR, des groupes iso-ressources vraiment très bas, c'est-à-dire qu'on est très dépendant, beaucoup de démence, maladie Alzheimer ou de la grande dépendance. Et en effet, des marques comme Sensilia qui permettent de réfléchir un peu de façon systémique et dans un milieu contraint qu'est celui des bailleurs sociaux, à des solutions à mettre en place pour ne pas penser qu'au logement, mais comme le nom Milieu de Vie Habitat, à l'habitat tout entier, le senior dans sa cité, dans son quartier, dans son milieu, eh bien, ça y contribue. Et ensuite, c'est aussi ce que fait Milieu de Vie Habitat, c'est réfléchir à un parcours résidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir le parcours résidentiel entre le logement, le chez-soi conventionnel, on va dire, et l'EHPAD. Il y a une foule, finalement, d'habitats intermédiaires à développer, et je pense qu'on y reviendra, mais il y a un très fort portage politique, en tout cas sur l'habitat inclusif, notamment, qui est proposé avec de l'aide à l'investissement et de l'aide à l'exploitation de nouvelles formes d'habitat qui ne sont plus pour personnes dépendantes, qui sont pour des personnes qui ne sont plus forcément capables de vivre chez eux, mais qui sont de l'habitat intermédiaire. Un grand enjeu de faire savoir.
Alors, c'est non seulement ce que vous dites a un sens énorme, puisque c'est aussi une façon qu'a la société dans laquelle nous vivons, notre démocratie, hein, j'emploie le mot vraiment de voir comment on traite effectivement cette question du qu'on appelle le troisième âge ou de l'accompagnement des personnes. D'ailleurs, on revoit souvent l'état de santé d'un pays sur le plan social, sociétal, à la façon dont il traite les personnes qui sont ce qu'on appelle les seniors. Une voie dans laquelle moi je suis entré et d'autres entrent aujourd'hui. Et je peux vous dire, bon, à part le mot qui pourrait me définir, je n'ai franchement pas l'impression d'être rebu ou d'être classifié, etc. etc. Et on le voit bien. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en 1962, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, on parlait déjà de ces sujets-là. Il y a plus de 50 ans. Et c'est André Malraux qui prenait la parole sur ce sujet-là. Alors avec la verve qu'on connaît, et qui disait la chose suivante, qui disait il y a dans cet accompagnement dans l'âge quelque chose qui ressort, c'est le lieu qui ont marqué l'intime. Les lieux qui ont marqué l'intime. Parce que quand tu retrouves cette image du quartier, de l'environnement dans lequel nous sommes, il est véhicule mémoriel de toute une histoire. Ce qui est très intéressant, c'est que ça accroît la qualité de la santé de la personne si elle est maintenue dans l'environnement. Tutoiement. C'est vertueux à tous les niveaux, on est d'accord là-dessus.
C'est vertueux à tous les niveaux, en effet, parce que la préservation du lien social et de la mobilité de proximité, c'est évidemment le meilleur vecteur pour la prévention et éviter la perte d'autonomie. Quoi.
Et de la santé publique. Et du coup, ça coûte moins cher à l'État. Et du coup, c'est plus intéressant pour la... Non, mais c'est fou, quoi.
Ah bah c'est, on y travaille tous les jours à justement prouver qu'un euro investi dans la prévention va faire économiser 1,15€ de remboursement de soins. Ça, c'est certain. Ouais.
C'est très clair. Johanna, justement, sur ce qu'on se dit là, ça, je sais que ça évoque, parce que vous y êtes... Alors là, pour le coup, vous êtes au contact permanent. Ça évoque beaucoup de choses. Est-ce que vous avez l'impression, par rapport à la première fois que je vous avais rencontré, il y a quelques années, qu'on a... Moi, j'en suis pas tout à fait sûr, mais une certaine évolution positive ou pas ?
Si, alors on a des exemples très concrets sur le terrain, d'ailleurs, dans le patrimoine Millennium Vie Habitat, pour le coup, avec lequel on travaille. Oui,
ok. Sur le plan de l'accompagnement des politiques, vous sentez soutenu ?
Oui, il y a une évolution quand même. Effectivement, on a de plus en plus de demandes. Les élus aussi intègrent dans leur cahier des charges aussi des éléments de vivre ensemble à imposer aux promoteurs pour pouvoir développer. Ça permet aussi de renforcer les liens sur le quartier, la proximité, les lieux tels que ceux qu'on développe avec Millennium Vie Habitat en pied d'immeuble, créer l'intergénérationnel, le partage, les services solidaires, etc. Donc oui, effectivement, on a une évolution positive.
Josiane, justement, vous qui êtes une élue locale, c'est quoi votre métier ?
Oh, moi je suis de la génération qui a fait plusieurs métiers. Mais celui auquel je tiens le plus, j'ai été 15 ans ambulancière.
Et vous êtes entrée en politique il y a combien de temps ?
En 2008.
En 2008 ?
En 2008.
Vous êtes à Cergy-Pontoise ?
Oui, à Cergy.
À Cergy. Et vous êtes à Cergy, vous êtes en 2008. Avant, vous n'avez pas du tout de politique ?
Non, du tout.
Comment ça s'est passé ?
S'est passé très simplement. Je partais un soir rejoindre mes amis. J'ai eu un appel téléphonique et on m'a dit « Monsieur le maire voudrait vous avoir dans son équipe ». Donc ma première réponse a été « Je n'ai rien demandé ». « Oui, mais madame, il veut vous voir ». Très bien, écoutez, on y va. Voilà, et ça s'est fait tout simplement. Et mon premier mandat a été au logement.
Était au logement. Mais oui. Avant ça, est-ce que vous imaginiez vous investir en politique locale ?
M'imaginer...
Parce que vous étiez déjà bien connu, déjà très dynamique.
Oui. J'étais présidente d'association, présidente de conseil syndical.
Connue dans le milieu associatif.
Oui, tout à fait. Et puis connue aussi pour dire quelques vérités au bon moment.
Mais déjà, à l'époque, on vous appelait la personne qu'on ne pouvait jamais arrêter. Donc c'est bien. C'est bien. Alors justement...
Vous connaissez mes amis, vous ?
Alors justement, vous savez, ça dépend. Vous avez dépend des amis. Justement, est-ce que cet engagement que vous avez eu à faire, on va pas revenir sur le cadre dans lequel vous êtes traité, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, justement, vous avez toujours cette passion, cet engagement que vous avez pour les autres, pour le service public, pour votre localité, pour la ville ?
Pourquoi je m'investis ? Parce que...
Qu'est-ce qui vous anime ?
Le vivre ensemble. Voilà, quand je suis arrivée, moi, en politique à Cergy, la devise était « vivre ensemble ». J'ai tout de suite aimé ça parce que on mélangeait toutes les générations. Et on a à Cergy des seniors très, très actifs pour vous dire, jeudi prochain, on a un thé dansant où on va avoir 250 personnes. Mais ce n'est pas ceux-là que je veux toucher, moi. Ceux que je veux toucher, ce sont ceux qui restent seuls chez eux, qui ne se montrent pas.
Eh oui, bien sûr.
Voilà. Et on en c'est ceux-là que je voudrais arriver à trouver.
Ça, c'est formidable. Et on est en public et on est en direct. Je vous ai dit, vous m'avez dit, venez nous voir à Cergy, je viendrai vous voir avec mes caméras. Oui. Un plateau, parce que c'est hyper important de voir comment aujourd'hui bougent les élus. Vraiment, merci d'être avec nous. Stéphane, vous avez évoqué Saint-Cylia. Alors, Saint-Cylia, moi, j'aime beaucoup l'idée. Hein. Décrivez-nous bien, justement, le dispositif. Et dans ces conditions-là, justement, à l'Univie Habitat, vous avez imaginé un parcours résidentiel différent, innovant. Comment vous... Voilà, pratico-pratique, comment vous les accompagnez, comment vous favorisez leur maintien, comment ça se passe dans, de façon extrêmement basique pour qu'on imagine et qu'on illustre un peu le propos.
Alors, on a la chance d'être dans un écosystème qui est particulièrement riche au XXIe siècle parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a plein de solutions qui sont développées autour de nous par le public, par le privé, par les associations pour pouvoir avoir des solutions pour mieux vivre dans son logement et vivre plus tard, mieux vivre ensemble. On a voulu, au travers de Saint-Cylia, à travers une démarche structurante, justement d'identifier ces différents partenaires pour fédérer l'action sociale territoriale autour du sujet des seniors. Et ça nous permet, par rapport à ça, d'engager une perspective et un certain nombre d'actions avec un certain nombre de sociétés et d'associations. Donc, en fait, Saint-Cylia a été créé comme une marque blanche pour pouvoir en fait fédérer ces différentes expériences, soit associatives, hein, on parlait de Cher Voisin qui a été co-construit avec Réciprocité, à travers Sylvurage qui développe un certain nombre de dispositifs aussi, mais aussi à travers la participation d'un certain nombre d'acteurs locaux à cette marque. Derrière, on puisse effectivement capitaliser sur cette expérience et pouvoir héberger un certain nombre de solutions nouvelles. Hein. Ça peut être des solutions techniques, ça peut être des nouvelles associations.
Par exemple, justement, pour illustrer.
Concrètement, aujourd'hui, on sait très bien que pour mieux vivre vivre plus longtemps dans un appartement senior, il faut avoir un certain nombre de systèmes de domotique intégrés, que ce soit des capteurs pour détecter les chutes, que ce soit par rapport à ça un certain nombre de téléassistance, que ce soit un certain nombre de facilités à travers l'évolution des sanitaires.
Transformation des sanitaires, salle de bain en douche par exemple.
Exactement.
Éviter, parce que j'avais vu que 70 ou 80% des chutes avaient lieu dans la salle de bain.
C'est ça.
Bien évidemment, il y avait eu à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, Julien de Normandie qui était venu lancer son plan salle de bain. Vous vous rappelez de ça ? Il était venu lancer. Il l'avait fait ici, sur ce plateau, pour la transformation des douches, des salles de bain où il y avait effectivement des baignoires en salle de douche à l'italienne dans lesquelles on évitait les... Ça en fait partie. Hein.
Exactement, et c'est pareil, les toilettes sont des lieux aussi où effectivement, si on n'est pas des barres de maintien,
bien sûr.
On peut avoir des accidents et parfois on retrouve des personnes enfermées dans leurs toilettes qui ont eu une chute malheureuse. Et c'est pour ça qu'il faut prévenir ce genre de choses.
C'est arrivé à mon père, c'est incroyable. Ouais, c'est arrivé à mon père, absolument. Parce que ça a l'air... C'est très basique, mais c'est ce qui ça se produit tous les jours, justement. Et donc, l'habitat peut être contribué justement à faciliter la vie de ce monde-là.
Tout à fait. Et puis après, il faut repenser le système de soins pour que, lorsque des personnes ont des difficultés, doivent voir des thérapeutes, l'accès à ces thérapeutes soit facilité, soit par rapport au fait de les implanter au plus proche des résidences seniors. Je pense à des kinésithérapeutes, je pense à des aides-soignantes, je pense à des livraisons de repas à domicile pour les gens qui n'ont pas le temps ou plus envie de se faire à manger. Voilà. Et c'est ce genre de choses qu'il faut développer.
C'est hyper intéressant ce que vous dites. Titouan, l'enjeu, c'est d'imaginer des lieux de vie plutôt que de multiplier le logement. On peut résumer les choses comme ça ?
Là, on ne va pas sur l'audio. La réponse, je pense, n'est pas aussi binaire. En effet,
ouais.
Il faut une réponse systémique aux besoins dans les lieux de vie, c'est-à-dire que, et surtout pour les bailleurs sociaux qui sont dans un milieu contraint, ils louent pas des villas à Dubaï, donc ils sont forcément dans des contraintes réglementaires aussi de ressources qui sont importantes. Et je dois dire que beaucoup, du coup, font preuve d'énormément de créativité justement pour mettre en place des services avec des modèles d'affaires qui soient solvabilisés par d'autres moyens que le reste à charge pour le locataire. Alors, il y a une évolution réglementaire prochainement qui va arriver en juillet, peut-être si elle est votée à l'Assemblée, sur la facilitation du reste à charge pour les locataires, mais s'ils ne sont pas solvables, ça ne sert à rien.
Et ça permettra de les aider un peu.
Il faut trouver d'autres modèles d'affaires qui ne soient... Moi, c'est mon métier, donc de trouver ces réponses un peu systémiques et solvabiliser derrière. En effet, il faut une ventilation des financements, notamment par les institutions qui sont... notamment motrices, les institutions de la sécurité sociale comme la CNAV ou la 5e branche, la CNSA, qui voilà, permettent l'investissement et l'exploitation. Là, on parlait tout à l'heure de l'adaptation des logements. La CNAV, par exemple, voilà, participe assez largement justement au financement de l'adaptation des logements et à l'expérimentation, à l'amorçage de nouveaux services dans le parc social. Donc voilà, c'est un tout.
Alors, on parle justement, sensibiliser les personnes avec l'autopartage, notamment la possibilité de partager. Le fait d'adapter, par exemple, le système de protection complémentaire de santé, justement, à la situation des personnes. Seigneur, souvent, il y a un décrochement, d'ailleurs. Ce qui est incroyable, parce que j'avais fait une étude là-dessus, on voit les mutuelles santé jusqu'à un certain niveau, un certain âge, c'est topissime, tu vois, jusqu'à... En fait, tant que tu es en activité, concrètement, hein, 65 ans, hop, ça décroche. Et non seulement ça décroche en termes de protection sociale de complémentaire, mais en plus, les prix sont multipliés par 2, voire par 3, etc. Comme si, finalement, il y avait une brutalité de changement de régime dès lors qu'on décroche, qu'on n'est plus utile à la société. Non, je caricature un peu, mais c'est un peu l'idée. Dites-moi.
Ce qui est très paradoxal, parce qu'aujourd'hui, quand on passe à la retraite, alors 62, 64, c'est pas la question, mais quand on passe à la retraite, aujourd'hui, on a environ 11 ou 12 ans d'espérance de vie sans incapacité, c'est-à-dire qu'on va vivre quasiment normalement. Donc déjà, ça fait un très beau projet de vie. Moi, je milite un peu pour qu'il n'y ait pas forcément une vision seulement déficitaire du vieillissement, et que ça peut être aussi une richesse, notamment dans le parc social. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en effet, sur les mutuelles santé particulièrement, elles essayent d'investir sur la prévention pour, à la fin, justement, quand on arrive dans ces années, on a des incapacités, réussir à avoir le moins de dépenses possible. Au-delà d'un enjeu de santé publique, c'est un enjeu de compétitivité pour eux.
Josiane, un mot là-dessus ?
Nous avons une mutuelle communale.
Une mutuelle communale ?
Oui, monsieur. Voilà, on a ça depuis 2 ans.
Tout le monde est éligible à la mutuelle communale ?
Oui, tout à fait. Donc le Conseil des seniors s'est investi pour chercher justement c'est la bonne mutuelle. Et selon la loi, on a été obligé de faire des propositions, plusieurs propositions. La meilleure a été retenue et maintenant ça fonctionne très bien. On a plus de 170 adhérents. Et on est en train d'ouvrir maintenant aux familles.
Non, c'est intéressant parce que ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est très intéressant. On a la collectivité locale qui a pris en main cet élément-là. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez considéré que vous avez bâti, parce que je pense que ce que vous avez négocié, c'est vraiment un groupe ouvert à adhésion facultative avec un assureur qui a permis effectivement la possibilité de proposer des garanties que vous avez d'ailleurs élaborées en amont. Ça a été l'objet de l'appel d'offres que vous avez souscrit pour justement accompagner vos adhérents. C'est finalement une mission dans le service, justement, parce que vous parliez par exemple des modèles économiques. Il faut qu'il y ait un modèle économique, sinon c'est pas pérenne, on est d'accord. Mais là, justement, l'intégration dans le discours, dans le partenariat des élus locaux, pour vous, c'est hyper important.
De toute façon, quand il y a des projets en effet en faveur des seniors et globalement dans le parc social, de toute façon c'est très lié à la vie locale, à la vie publique locale et notamment à la politique locale. Quand on construit une nouvelle résidence, quand on construit un nouvel habitat, forcément c'est la traduction aussi d'une volonté politique et locale.
Johanna, justement, dans l'accompagnement que tu vis au quotidien avec aujourd'hui d'autres coordinatrices que vous gérez d'ailleurs de façon organisée, ce triptyque entre l'élu local très impliqué dans justement le maintien de ces populations et de l'intergénérationnel qui est aussi à la fois la garantie de la vie de la ville, mais aussi du souvenir, parce qu'il ne faut pas oublier que les seniors dont vous parlez, c'est aussi la mémoire de la ville dans laquelle ils se trouvent. Comment les coordinatrices aujourd'hui, les coordinateurs, arrivent à gérer ces paramètres qui sont parfois un peu de l'assistanat social, entre guillemets, de médiation sociale, d'accompagnement?
Alors, juste peut-être pour préciser, je ne parlerai pas d'assistanat, au contraire, c'est tout ce qu'on...
Alors quand je dis assistanat social, j'allais dire... Non, c'est bon, non, le terme que j'ai utilisé n'est pas bon. Quand je dis assistante sociale, c'est plutôt médiateur social, c'est-à-dire d'accompagnateur, dans le sens de l'accompagnement. Vous avez raison, le mot assistanat n'est pas approprié.
Oui, tout à fait. Alors peut-être une précision sur juste le dispositif dont on parle, oui. Cher voisin, qui permet vraiment de créer un local en pied d'immeuble pour que toutes les générations se retrouvent en bas, puissent monter des projets collectifs ensemble et échanger voilà, tout un tas de services solidaires qu'on met en place. On impulse en fait aujourd'hui par le biais de nos maisons des projets tout ce qui se passait naturellement à l'époque et aujourd'hui on impulse ça nous sur le terrain en allant à la rencontre des gens, en leur demandant quels sont leurs besoins, quelles sont leurs ressources aussi pour qu'ils puissent s'investir, trouver une utilité dans la vie sociale et dans la vie de la cité, du quartier.
Et répondre en général très bien.
Et répondre, évidemment.
Vous avez des stats là-dessus justement?
On a des pourcentages assez intéressants de participation, sachant qu'on ouvre en premier lieu donc vraiment uniquement aux locataires Millennium Habitat, puisque c'est un partenariat exclusif avec Millennium Habitat. Et en second temps, une fois que la dynamique est lancée, l'idée c'est de pouvoir ouvrir sur le quartier, sur l'extérieur, voire parfois même ça dépasse un peu les limites du quartier et les gens s'y intéressent. C'est des forces vives qui nous rejoignent, des seniors aussi qui nous rejoignent, qui sont plus en activité sur le quartier, s'impliquent aussi et trouvent également une utilité. Donc c'est très riche. Ça, évidemment, les collectivités sont ravies de cette émulation autour de ces lieux de vie qui créent du lien entre tous. Et il y a des vrais sujets. Alors intergé typique, j'ai des exemples en tête de personnes âgées justement qui filent des coups de main pour garder des enfants de jeunes actifs par exemple, et puis à l'inverse les actifs peuvent aller chercher les courses, etc. Du partage, enfin voilà, tout ce qui se faisait.
Est-ce que ça peut être par exemple, je sais pas moi, des cours complémentaires de mathématiques de personnes âgées qui étaient anciens profs,
tout à fait.
De français,
transmission de savoir, évidemment.
Ils aiment ça en plus, parler,
bien
échanger.
Sûr. C'est très valorisant.
Le sentiment de la dignité, d'une certaine forme de dignité.
Tout à fait.
Et de se dire finalement, on n'est pas à moitié humain lorsqu'on est, on entre dans cette voie-là.
Exactement.
Voilà. C'est vraiment, c'est un super métier que vous avez là. C'est quel profil ont les collabs? Ils sont quoi? Ils sont psys?
Non,
ils sont
tout,
éducateurs?
C'est
ils sont
plutôt... Alors, on a des profils assez atypiques parfois. Et les savoir-être sont très importants.
Ouais, c'est clair.
C'est un peu... Voilà,
ce qui vous intéresse, c'est pas leur CV, c'est
mais
ce qu'ils
c'est
sont.
Beaucoup, exactement.
Bah ouais.
Exactement.
Bah ouais.
Parce que le lien, c'est, voilà, c'est l'humain. Mais c'est pratique. Enfin, c'est
que
souvent
c'est bien
des...
dit, ça. Hein. C'est vrai, hein. Le lien, c'est l'humain. Et toi, alors justement, par exemple, un profil atypique, ce serait quoi?
C'est plutôt sciences humaines et sociales de base.
D'accord. Voilà. Et moi, si j'adore les gens et que je suis plombier, je peux devenir aussi coordinateur.
Tout à fait. Voilà. Pourquoi pas? On a des profils très atypiques. Et on a une ancienne hôtesse de l'air qu'on a recrutée dernièrement, qui est très...
Donc, et aujourd'hui, elle fait un service aux particuliers de haut vol. Donc, voilà. Merci en tout cas. Alors justement, je voudrais qu'on parle aussi d'un sujet. Vous avez évoqué les modèles économiques, on a évoqué. Des problèmes. Oui, Stéphane.
Justement, sur ces modèles économiques, je voudrais revenir dessus parce qu'ils sont particulièrement importants. On parlait tout à l'heure des subventions données par la CARSAT et par la CNAV. Il ne faut pas oublier les aides qui ont été données par le département, en particulier le département de 93 et de 95, dans le cadre de Chers Voisins, et aussi des subventions données par la Caisse d'allocation familiale qui vient renforcer par rapport à ça et permettre à ce dispositif d'exister. Et je pense que c'est très important. Il ne faut pas oublier non plus l'effort que font les communes à travers l'adaptation des logements qui donne lieu à des exonérations de taxes foncières, d'accord, pour pouvoir adapter les logements et transformer les salles de bain. Transformer une salle de bain pour l'adapter pour un senior, c'est un coût d'environ 7 500 €.
Ah, quand même.
Donc,
Oui.
Exactement, exactement.
C'est pas neutre. Hein.
C'est pas neutre et le bailleur, malgré toute sa bonne volonté, ne peut pas financer l'ensemble de ses travaux. Et heureusement que dans l'écosystème, nous avons ces acteurs qui sont présents, que nous allons chercher pour leur proposer des initiatives qui derrière ont un retour sur investissement parce que ça permet de conserver des personnes à leur domicile pour qu'ils vivent mieux, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis plus longtemps dans leur logement.
C'est ce qui se passe à Cergy, Josiane?
Ça se passe comme ça à Cergy, oui. On essaye d'intégrer tous nos seniors et de leur faciliter la vie au maximum
Donc c'est vrai qu'il y a un partenariat solide entre les bailleurs. On va d'ailleurs réunir tout le monde dans le deuxième semestre de cette année. Donc j'espère vous y voir.
Et, avec grand plaisir.
Mais oui, mais bien sûr, on fait la pub, on en profite. Mais l'essentiel surtout, c'est que les seniors puissent vivre chez eux le plus longtemps possible. Et à partir du moment où ils ne peuvent plus vivre chez eux, moi je fais partie de cette catégorie maintenant. Et j'habite dans un appartement au 5e étage. Et je me dis toujours, tant que mes jambes me porteront et que cet ascenseur fonctionnera, je resterai chez moi. Mais un jour, il faudra que je parte. Et lorsque je partirai, ce que je veux, ce que j'attends vraiment, c'est qu'on me laisse vivre dans la vraie vie avec les vrais gens. Voilà. Je ne veux pas être environnée, tant que mes jambes me porteront, je ne veux pas être environnée de blouses blanches. Je ne veux pas qu'on me dise tous les matins « Avez-vous pris votre pilule ou votre température ?» Non, je ne veux pas de ça.
J'adore.
Je veux continuer à vivre le plus longtemps possible. Voilà.
Voilà. Voilà. Bravo. 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 On peut applaudir ce que vous dites. C'est la vie. C'est singulier, comme ce que vous dites est frappant de bon sens. Et quelque part, c'est presque un cri, tu vois, c'est un appel. On se dit, vous avez été 15 ans ambulancière, ben vous avez sauvé des vies, quoi. J'ai été très utile toute ma vie. Je suis élu local, je me bats au quotidien, le matin, le soir, le dimanche, parfois au détriment de votre vie personnelle, de votre vie sociale.
Ah, oui.
Et pour qu'à un moment donné, on vous dise, ma Josiane, hein, elle va prendre son petit cachet, hein, et voilà. Non, mais ça, c'est pas possible.
Ça, c'est inenvisageable.
Et c'est là que, cher voisin, que le dispositif Sensilia, sans faire une paraphrase, a du sens. Juste à l'heure où à l'Assemblée on discute de ces textes, à l'heure où il nous faudra bien réfléchir, parce que sans faire notamment de délit d'enjoliver ou d'avoir que des bons sentiments, on sait, et Titouan vous l'avez rappelé, qu'il faut un modèle économique adapté. Que peut-être on ira vers peut-être le prêt hypothécaire, peut-être de trouver un mode un peu à l'anglaise. Qui permettrait de le faire. Vous en parlez de temps en temps, souvent d'ailleurs, de ce sujet-là.
Je crois assez profondément à la monétisation du patrimoine.
Bah oui.
En trois mots, hein. Aujourd'hui, il y a 75% des seniors qui sont propriétaires de leur logement. Ils sont du coup riches en patrimoine, pauvres en liquidité, parce que voilà, les pensions moyennes sont globalement faibles.
Bah oui.
Donc il y a un enjeu forcément de financement individuel qui va se créer. Parce que MaPrimeAdapt', qui va être au 1er janvier 2024, va... Alors, déjà, c'est un cofinancement, donc il faut financer l'autre partie. Et finalement, il y aura beaucoup de seniors qui sont au-dessus de ces minima. Donc, ça va être très difficile, en tout cas pour certains. Et voilà, des nouveaux modèles à inventer. C'est assez généralisé, le prêt viager hypothécaire dans les pays anglo-saxons, mais à réinventer. Alors, pourquoi pas intégrer des seniors qui ont monétisé leur patrimoine dans le parc social, une diversité de possibilités.
Mais le démembrement de patrimoine, c'était quelque chose qui n'était pas acquis pour le logement social. On a mis en place le BRS avec justement les OFS. On a mis en place la possibilité de faire du démembrement d'un point de vue économique. C'est aussi une façon de rendre liquide. Il y a le viager classique, bien évidemment, qu'on peut assortir. On n'est pas obligé de dire le viager, c'est une garantie ou un pari sur la mort. Mais ça peut être aussi le nantissement purement et simplement d'un actif que vous avez et qui permet de le faire. Et je pense qu'heureusement qu'on a ces initiatives-là, justement. Il faut juste espérer. Est-ce que justement le Parlement, Titouan, avec les antennes que vous avez, vous sentez que ça prend ou pas, concrètement ?
Je ne pense pas que ce soit, en tout cas, la monétisation du patrimoine, si on parle vraiment de ce cas d'usage-là, soit véritablement adressé par les pouvoirs publics. Ça se passe vraiment par le privé, je pense. Il y a néanmoins des évolutions réglementaires qui ont été en 2019 sur le prêt viager hypothécaire, en effet. Mais voilà, comme vous l'avez rappelé, pas de pari sur la mort, ce qui le rend finalement, j'aime pas trop la nomenclature, mais plus éthique, quoi.
Mais bien sûr. Josiane, justement, qu'est-ce qui vous a séduit dans le dispositif ? Qu'est-ce qui vous a plu, justement, dans ce dispositif Sensilia, justement ? Mais aussi, quand vous connaissez, chers voisins, toutes ces initiatives, voilà, qu'est-ce qui vous a engagé justement à y aller ?
Eh bien, je ne vais pas réfléchir longtemps. Le partage, la solidarité, Et je redis toujours les mêmes mots parce qu'ils sont précieux lorsqu'on a passé un certain cap de la vie. Les mots qui sont précieux, oui, c'est partage, solidarité, c'est la vie. Voilà. Et tout ça, dans ce nouveau dispositif qui n'existe pas encore à Cergy, et j'espère qu'il va tenir toutes ses promesses, et on vous attend avec beaucoup d'impatience, parce que vous allez vraiment apporter quelque chose de nouveau, et vous allez permettre à beaucoup de seniors de continuer, je redis le mot, mais de continuer à vivre parmi les autres. Et ça, c'est super important. Voilà, l'intergénérationnel. Qu'une mamie qui s'ennuie chez elle puisse garder le bébé de la dame du troisième étage parce qu'elle part faire ses courses ou parce qu'elle part à un entretien d'embauche. Moi, je trouve ça essentiel. Voilà.
Et ça répond, vous qui avez la vue sur les élus, de votre point de vue d'élu local, sur ce que vivent les gens au quotidien, concrètement, ces dispositifs qui sont extrêmement innovant, et moi je vous le dis qu'il faudrait même les rendre constitutionnels, vous savez, pour être très clair là-dessus, répondre aux besoins des populations, concrètement. Ça, vous le savez, ça, que ça répond aux
tout
besoins.
Tout à fait. Ça répond tout à fait à ce que les populations à Cergy et même dans la ville nouvelle, à ce que nous attendons, je dis nous puisque je m'intègre, voilà, ça répond tout à fait à ce que nous attendons. On a besoin de cette communication, on a besoin de ces échanges. Nous avons à Cergy 8500 seniors pour 66 000 habitants, donc vous voyez qu'il y a déjà un bon pourcentage. Voilà.
8500 seniors.
8500 seniors.
Sur une population ?
66 000.
Sur 66 000, ah oui.
Oui.
C'est plus de 10% de la population.
C'est exponentiel parce que entre 2009 et 2019, la population senior a augmenté de 42%. Donc,
c'est un territoire qu'on peut qualifier d'attractif.
C'est très attractif.
Parce que vous avez une démographie qui sans cesse grimpe d'année en année, quoi.
Complètement.
On vit bien, Sergi ?
On pourrait vivre en autarcie totale à Cergy. On a tout à Cergy. Et on a 10 arbres pour un habitant.
10 arbres pour un habitant ?
Oui, alors...
Comment on appelle les habitants de Cergy, Josiane ?
Alors, les Cergissois.
Les Cergissois.
Et les habitants de la ville nouvelle, les Cergy-Pontins.
Les Cergy-Pontins.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup ces façons de décrire les habitants. Justement, les habitants eux-mêmes, vous me dites, je reprends vos propos... ça correspond aux attentes.
Oui.
Vous avez les personnes âgées, seniors, les jeunes, ils vous disent quoi ? Les jeunes générations.
Alors, moi, ce que je rencontre dans ma mission du logement, c'est beaucoup de parents, justement, de jeunes parents, et énormément de familles monoparentales. Nous avons énormément de femmes, de jeunes femmes, avec des petits-enfants, certains enfants ne savent pas ce que c'est qu'une mamie ou un papy. Donc voilà, où on va avoir cet échange, où ce sera riche, parce qu'il y aura aussi une transmission d'expérience, de vécu. Et les jeunes aussi attendent ça. Et moi, je rentre n'importe quel jour, n'importe quelle heure du jour et de la nuit chez moi. Je traverse Cergy. Je ne pense pas que ce soit ni à cause de mes cheveux blancs, ni à cause de ma mission. Simplement au fait que je suis là, dans le quartier, que les gens me connaissent. Il y a toujours un très grand respect, il y a toujours une très grande attention. Et les jeunes viennent toujours vers les anciens. On a l'impression qu'ils sont à la recherche de cette richesse. Je dis toujours, s'il n'y avait pas de vieux, il n'y aurait pas de jeunes.
C'est important ce que vous dites, parce que tout à l'heure, j'écoutais vos propos. Et vous avez dit, vous avez entendu comme moi, nous ce qu'on veut c'est vivre.
Oui.
Vous savez ce que disait Simone de Beauvoir ? Vivre, c'est vieillir, rien de plus.
Vieillir, c'est une chance.
Voilà.
Chaque jour est un cadeau.
Vivre, c'est vieillir, rien de plus. Simone de Beauvoir, c'est exactement ce que vous dites. C'est intéressant parce que quand on pose la question, quand on est à un stade de la vie, on a une certaine réflexion, bien évidemment. C'est vivre qui vient le premier. Et quel est le mot qui vient en second, selon vous, Stéphane ?
Bien vivre.
Bien vivre, absolument. bien vivre, ça veut dire. Et vous, vous diriez quoi ? Tais-toi.
Vieillir, alors, dans ce cas-là.
La dignité. Bien vivre, mais digne. Parce que vous dites, moi, je veux... Parce que vous pourriez bien vivre dans une chambre sympathique avec des gens en blouse blanche qui vous apportent le truc, etc. C'est pas forcément la dignité que vous voulez. Vivre et vivre dignement. C'est vivre et être logé décemment. Vous voyez ? Des choses qui vont avec. Le logement, c'est pas que le logement. C'est le logement décent. C'est le logement accompagné. C'est le logement... C'est la mission que vous, vous vivez au quotidien, Stéphane.
Oui. Et à travers l'association Chers Voisins, il y a quelque chose qu'il faut souligner justement par rapport à ce lien intergénérationnel. C'est la mission que l'on peut confier à ces locataires qui font partie de l'association et qui vont se mettre ensemble pour, par exemple, tailler la haie, entretenir les espaces verts. Non seulement ça leur permet d'avoir une activité, mais également de diminuer les charges de la résidence. Et aujourd'hui, compte tenu de l'inflation, compte tenu des difficultés financières que peuvent avoir certains, c'est remarquable. C'est remarquable parce que ça permet à la fois de tisser le lien à travers la résidence, de se faire un réseau d'amis, de se faire se rencontrer des gens de différentes générations pour justement se bien vivre ensemble. Et puis en même temps, de baisser le montant de ses charges pour qu'on puisse ensuite dépenser ses économies à mieux vivre.
Le dispositif, Johanna, cher voisin, on commence à voir de façon très, très prégnante, voire même inquiétante, avec les inondations, les problématiques climatiques. Alors là, clairement, il n'y a plus de débat. Hein. On voit bien que la brutalité du fait que la nature se rappelle de façon terrible et assez pénible à notre souvenir, hein, parce que depuis une époque, on était un peu dans le déni climato-sceptique, etc. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat. On voit les premières vagues de chaleur, on voit comment les personnes sont parfois impuissantes devant ces effets-là. Est-ce que, justement, comment vous prenez soin justement de ces seniors, comment vous les accompagnez, comment ça se passe dans un contexte actuel, hein, en ce moment, où c'est compliqué? Parce que moi, la seule chose que je crains quand je vois ce qui s'est passé dans les jours qui précèdent, je me dis, mais est-ce qu'on n'est pas là à l'aube peut-être d'une canicule sans précédent? Parce que c'est incroyable, parce que les chaleurs qu'il y a eu ces derniers jours, quoi. Johanna.
Tout à fait. Alors, sur le dispositif Chers Voisins, précisément, il y a plusieurs actions qui sont mises en place. Évidemment, de la prévention au sein du local partagé, où on sensibilise les âgés et le voisinage, ce qu'on appelle le voisinage actif, où on responsabilise aussi les locataires voisins de personnes âgées, de personnes en situation d'isolement fragile, en tout cas, à pouvoir passer un petit coup de fil ou à passer toquer à la porte régulièrement pour prendre des nouvelles. On essaie, quand on peut, aussi d'équiper nos maisons des projets, les lieux avec ventilateurs, etc., pour aussi pouvoir être un lieu ressource sur ces sujets-là. Et bien sûr, il y a une veille qui est exercée par la gestionnaire animatrice, donc la professionnelle qui est sur le terrain, qui, elle, met en place vraiment une veille active très régulière pour prendre soin de ces personnes-là. Mais le voisinage y est pour beaucoup.
J'aimerais qu'on donne quelques chiffres. C'est possible d'avoir des chiffres sur votre dispositif?
Alors, sur la
au
veille...
Global.
Alors, j'ai pas les chiffres en tête parce que je
vais l'ensemble des sites. Il y a combien d'animateurs aujourd'hui ? Vous savez ça ?
Les gestionnaires animateurs sur la région Nord-Île-de-France, ouais. Chez Réciprocité, on est sur 13 professionnels.
Pas mal, hein ?
Oui.
Comment vous êtes financé, vous ?
Alors, il y a tout un tas de financements divers et variés.
Subventions.
En fonction, on peut coupler en fonction des dispositifs avec donc Millennium Habitat, c'est le dispositif Chers Voisins, donc exclusivement Millennium Habitat.
Oui.
Sur d'autres projets, on a des financements mixtes et on a après d'autres sources de financement qu'on récupère. On a le sujet de l'habitat inclusif en ce moment, qui est du coup d'actualité pour lequel on est lauréat sur une dizaine de nos projets pour des résidences intergénérationnelles qui du coup vont bénéficier prochainement de financements. D'aide à la vie partagée.
Alors, on a mis le focus, hein, Chers Voisins, c'est le dispositif Saint-Hilaire, il y en a d'autres. Hein. Camarage ou camarade ?
Camarage.
Non, mais je faisais une petite blague. Camarage, qui permet d'optimiser l'utilisation des logements disponibles et qui encourage l'entraide entre les locataires seniors et les logettes et les jeunes. C'est bien ça ?
L'idée, c'est d'offrir la possibilité à un senior qui a une pièce de libre dans son appartement d'accueillir un jeune étudiant
pour que justement, par rapport à ça, on ait un lien intergénérationnel et une aide intergénérationnelle qui se crée. Voilà. Donc, le concept, il vise à lutter contre l'isolement, et il vise aussi à, par rapport à ça, échanger des services entre personnes âgées et puis...
Ce dispositif a été lancé ?
Il a été lancé, il en est à ses débuts.
D'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas encore de statistiques,
de recul,
d'éléments. Voilà. Mais ça, est-ce que ça prend ? Ça prend.
Aujourd'hui, on va dire que c'est nouveau et on rentre dans l'intimité des personnes âgées. Donc par rapport à ça, c'est un peu plus difficile que le concept qui est déjà connu, qui est de mixer des logements à l'intérieur d'une résidence en mettant des étudiants, des actifs et puis des personnes âgées. Pour que justement, par rapport à ça, on ait ce lien intergénérationnel qui puisse s'établir au quotidien avec chacun son chez-soi. Voilà.
Chacun son chez-soi.
Exactement. Ouais. Donc c'est un défi avec justement une innovation, hein, mais je ne doute pas que dans certains cas, ça réponde à des besoins, en particulier sur des gens qui sont un peu plus isolés.
Alors, vous avez re-signé, me semble-t-il, une convention avec la CNAV, avec un dispositif de subvention et d'exonération de la taxe foncière, justement, pour favoriser.
Alors, c'est
comment ça se
pour
passe
transformer les salles de bain et les rendre adaptables aux personnes handicapées ou aux personnes âgées.
Ouais.
On vient de re-signer pour 3 ans avec la CNAV, qui nous donne des subventions, et ce processus et ce procédé nous permet également d'aller chercher une exonération de taxe foncière pour pouvoir financer ces transformations de sanitaire ou de logement, parce que c'est aussi pour transformer des logements, pour les adapter à des personnes handicapées, et c'est particulièrement remarquable.
Titouan, c'est top, ça, ce genre d'initiative. Oui, on peut donner du son à Titouan, là, si c'est possible.
Je veux dire juste un tout petit mot pour dire à quel point je souligne la formidable initiative avec Camarage. En effet, au-delà de créer du lien social, c'est de la solvabilité pour le senior qui loue sa chambre. Pour le bailleur, c'est de la réduction de la sous-occupation, qui est quand même un enjeu assez, assez affolant.
Ah oui, c'est vrai.
Alors, c'est permis par la loi Elan, qui est de 2019, je crois
bien. À l'heure où les gens ont difficulté à se loger, effectivement. Ouais.
Et c'est très difficile pour le parc social, pour un OPH, politiquement aussi, de dire « Bon, on va arrêter d'adapter vos logements parce que vous occupez un T5 toute seule ». C'est extrêmement difficile. Donc, c'est une réponse, Camarage, qui est formidable. C'est pas la seule, évidemment. Mais permettre la sous-occupation pour éviter la personne de déménager, parce qu'on va lui dire « bah, c'est embêtant pour nous d'adapter un si grand logement », eh bien, c'est assez formidable. Et sur la CNAV, en effet, qui fait un énorme effort pour la solvabilité de l'adaptation des logements.
C'est facile à intégrer, la politique locale, pour les sergissois, les sergissoises, ce type de dispositif ?
Alors, ce dispositif, nous l'avons tenté, nous, il y a quelques années, avec une association. En 3 ans, on avait réussi 2 binômes. Les seniors sont partants, sans aucune restriction. Là où on a rencontré les véritables difficultés, c'est avec les familles.
Les familles.
Mais oui, qui allons-nous rentrer dans l'appartement de notre mère, de notre père ? Comment va-t-il se comporter ? Est-ce qu'il va apporter des amis ? Est-ce que ça va faire la fête ? Est-ce que 50 000 questions qui ont fait que le système n'a pas pris à Cergy. Alors, peut-être que ça manquait aussi d'envergure, je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis tout à fait prête à retravailler le projet avec vous dans d'autres dimensions. Pourquoi pas ?
À bon entendeur. Alors justement, on parle aujourd'hui, Stéphane connaît bien le sujet, mais évidemment, c'est le foncier. C'est même plus l'or noir, c'est carrément de la platine. C'est du l'iridium, c'est du silicium. Le foncier, c'est un vrai sujet. Grâce à la création des organismes fonciers solidaires, une mise en place a été faite avec un nouveau mode d'acquisition qui s'appelle le BRS. Voilà. Le bail réel et solidaire, qui est une forme ni plus ni moins démembrée entre la construction et le bâti. Avec le recul du professionnel que vous êtes, vous, Stéphane Louvelec, est-ce que c'est une bonne idée ? Est-ce que ça marche ? Bon, concrètement, ça marche ?
toutes les bonnes idées en matière de foncier sont bonnes à prendre. Je dirais que ça fait partie des éléments de réponse, ce BRS, au même titre que le travail de l'établissement public foncier et le travail des collectivités pour remettre à disposition et permettre d'exploiter des friches industrielles ou transformer l'usage des bâtiments. Voilà. Donc pour moi, il nous faut, dans le cadre de la recherche et de l'adaptation du foncier, une boîte à outils avec le plus d'outils possible à l'intérieur. Le BRS est l'une des solutions. Ce n'est pas l'unique solution, mais effectivement, en région parisienne, compte tenu du prix du foncier, c'est effectivement quelque chose de très important. Il y a aussi la coopération avec des promoteurs pour créer des sociétés mixtes et pouvoir, par là même, baisser le prix du foncier en faisant des opérations de copromotion.
Vous connaissez le BRS, José Carpentier ? Alors, c'est en fait la possibilité, sous condition bien évidemment d'acquisition de ressources, de séparer le foncier du bâti. En fait, c'est du démembrement de propriété. Donc, c'est un peu, on va dire, on glisserait vers l'amphithéose, vous savez, un peu à l'anglaise. Oui. C'est en Angleterre, on n'achète pas l'empattement foncier, on achète une forme de concession amphithéotique. Donc c'est une amphithéose. Donc là, c'est un peu l'idée. Ça permet, notamment, dans des zones tendues, là où le mètre carré coûterait, je ne sais pas, 7, 8, 9 000 euros, ça le permet de l'avoir. Par exemple, il y avait une opération à Paris, rue Plantier, une vingtaine d'appartements qui avaient été faits par le service de la mairie, plafonnés à 5 000 euros du mètre, par exemple. Cœur de ville.
D'accord.
Soit deux fois moins cher que qu'est-ce qu'il y avait. D'ailleurs, il y avait 24 appartements qui étaient disponibles. Il y a eu 12 000 demandes. 12 000. Par contre, effectivement, pour revendre, il y a une question, parce que comment vous revendez ? Ensuite, quelles normes vous mettez, parce que c'est pas du tout spéculatif du coup dans l'accroissement de la valeur, mais quelqu'un qui a mis 5000 euros du mètre carré, il entend bien aussi pouvoir les récupérer. Voilà, les récupérer un jour, c'est peut-être une solution. Malheureusement, il va être l'heure de nous quitter. C'est toujours trop court. Hein. Évidemment, ça fait pratiquement 50 minutes qu'on a passé ensemble. On a même un peu dépassé les éléments. Je vous propose un jeu. Est-ce que vous êtes d'accord ? Voilà, un jeu un peu à la Bernard Pivot, ça vous tente ? Bernard Pivot, vous vous rappelez ? Non, je vous dis ça à vous, les jeunes.
On n'est pas nés, je pense.
Voilà, ça c'est méchant, ça. Là, c'est bon. Alors, je vais vous demander à chacun, pour illustrer notre table ronde, j'étais très, très, très heureux de vous voir, de choisir un mot, un adjectif, peu importe, qui vous viendrait spontanément à l'esprit. Voilà, pour illustrer notre propos, notre débat. Quel mot vous viendrait comme ça à l'esprit, Josiane ? Comme ça, spontanément ?
Enrichissant.
Enrichissant. Enrichissant. Très bien. Stéphane.
Solidarité intergénérationnelle.
Vous n'avez qu'un seul mot à trouver.
Solidarité.
Solidarité.
Et du coup, je rebondis.
Je vous reconnais bien là, Stéphane. Titouan.
Patrimoine.
Patrimoine. Johanna,
oui. Moi j'aurais dit richesse, mais du coup je dirais plutôt intergénérationnel, qui est à l'image aussi de notre table ronde et qui est très intéressante.
Alors,
indispensable.
À l'image de notre table ronde, hein, sauf moi. Hein,
intergénérationnel, c'est toutes les générations, on n'est pas sur.
Oui, oui, non, mais. Voilà. Autant se détendre, surtout vu le climat actuel, on est d'accord. Donc intergénérationnel. Bon, il y a deux mots, je vous le prends quand même.
Non, d'accord. C'est un seul mot. Non, c'est
assez. Alors, intergénérationnel. Ah, oui, tout à fait. Okay. Intergénérationnel. Alors, si l'on veut aller tous ensemble vers plus de solidarité afin de préserver communément un patrimoine, encore faut-il avoir une vision intergénérationnelle pour que ce soit pour chacun et pour chacune enrichissant.
Bravo.
Ce sera la conclusion de cette table ronde dans une France qui vieillit et qui doit forcément bien vieillir. Voilà, j'étais ravi de vous avoir sur le plateau. Très heureux de vous rencontrer. Merci à vous, Josiane Carpentier. Je rappelle que vous êtes élue municipale. J'ai une chose à vous dire. Ne changez rien.
C'est trop tard, je ne pourrai plus.
Voilà, changez rien, je rappelle que vous êtes élu municipal en mairie de Cergy et je viendrai vous voir avec grand plaisir. Et vous êtes en charge de l'intergénérationnel et du logement. Merci d'avoir pris le temps de passer sur le plateau de Mille et Une Vie Habitat avec Radio Immo et Radio Territoria. Merci à vous, Stéphane Bobenek, un plaisir de vous avoir sur le plateau.
Merci beaucoup.
Directeur Île-de-France pour Mille et Une Vie Habitat, vous revenez nous voir. D'ailleurs, on va faire tailler un rond de serviette avec le nom Stéphane Bobenek. Sur Radio Immo, sur Territoria. Merci en tout cas d'être passé sur le plateau. Un grand merci à Titouan Levard. Merci.
Merci à vous.
Directeur général adjoint de Silver Valley. Voilà. Quand le vent soufflera. Voilà. Non, parce que ce que j'adore, c'est votre style. Directeur général Silver Valley. Voilà. Vous ressemblez à quelqu'un que j'ai eu le plaisir de rencontrer une fois, qui s'appelle Olivier de Kersauzon, qui est un type absolument remarquable. Vous aussi, surtout, changez rien. Voilà. On pourrait même penser que c'est un peu de la concurrence déloyale, parce qu'il a tout pour lui. Hein. Il est beau, il est jeune, il est intelligent. Voilà. Vous n'attendez pas à celle-ci. Hein. Voilà, c'était un plaisir de vous avoir. Et puis, dès que vous avez une actu, bien évidemment, vous nous appelez. Et on sera un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Un immense merci également à Johanna Tomasini. Ravi de vous avoir revu, de voir aussi votre évolution. Je vois que vous êtes toujours aussi passionné par ce que vous faites. Parce que maintenant, vous managez les gens, vous les encouragez. Je sais que c'est un métier pas facile, pas facile du tout. C'est un vrai sacerdoce. On parlait tout à l'heure avec Josiane tout à l'heure sur des métiers. Il y a des métiers comme ça, comme les métiers du sanitaire, du social, qui sont hyper importants. On en a besoin pour faire fonctionner notre pays. C'est enrichissant, véritablement, parce qu'on peut lancer un appel à ceux qui souhaitent le faire, parce que c'est un métier qui va se développer, hein, pour le dire. Oui. Cher voisin est un formidable dispositif. Sensilia est un dispositif magnifique comme camarade, effectivement. On se reverra dans quelques temps, quelques mois, pour faire les premières statistiques. À toutes et à tous, d'ici là, justement, avec un été qui sera chaud, on va vous souhaiter d'abord de prendre bien soin de vous, voilà, de passer un excellent salon des maires d'Île-de-France. Et si vous avez loupé l'émission, rassurez-vous, elle est disponible en podcast, comme d'habitude, sur les plateformes d'écoute. Bien et bon vent à toutes et à tous. Passez un excellent salon.
L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec Mille et Une Vie Habitat, Homélior, BT Immo et Castignac, sur Radio Immo et Radio Territoria.